Bon, je pense que... Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Syrah, sont déjà venus, ou ont déjà correspondu avec nous. Ces derniers temps, nous avons eu des visiteurs un peu, ou des visites un peu particulières au Syrah. Des artistes visuels, gens de théâtre, qui cherchent des choses un peu inattendues, parce qu'en général, la plupart des visiteurs que nous avons, c'est des historiens et historiennes, des militants, militantes, des curieux, quelques journalistes. Les artistes, c'est un peu plus particulier. Comment est-ce qu'on peut, nous qui avons l'habitude de l'écrit, des livres, des brochures, des journaux, des manuscrits, on a quelques œuvres visuelles, mais pas beaucoup, comment est-ce qu'on peut traduire cela dans une démarche artistique? Et la dernière volée, si vous voulez, c'est des étudiants et étudiantes à Genève qui sont dans un projet où les profs ont dit on va travailler sur les archives. Et en fait, ceux et celles qui sont venus au Syrah, ils ne savent pas du tout ce que c'est que des archives. Ils sont tout à fait désemparés, ils ne savent pas par où commencer. Parce que qu'est-ce que c'est des archives? Est-ce que c'est des choses secrètes qu'on a dans un coin avec des tracts clandestins ou des objets bizarres? Est-ce que c'est le Syrah comme ensemble? Est-ce que c'est un livre de la bibliothèque? Est-ce que c'est déjà des archives? Donc le dialogue a été très, très compliqué avec eux. Et je pense que ça va... Je pense que les profs leur ont mal expliqué et qu'il y a un décalage vraiment sérieux. Pour nous, ça semble assez évident. Nous essayons, depuis 50 ans, de conserver essentiellement la production écrite du mouvement anarchiste dans le monde. Donc, des imprimés, qui peuvent aller du livre jusqu'au petit tract ou à l'autocollant. Des manuscrits, de la correspondance, des choses polycopiées, quelques objets, mais pas beaucoup, parce que c'est un peu compliqué, on n'est pas vraiment un musée. Et effectivement, il y a une production très spécifique de l'écrit anarchiste. On ironise parfois en disant quand trois anarchistes se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Un journal. Mais bon, c'est une manière de faire de la propagande. Beaucoup de journaux petits, de brochures fines, simples à lire, faciles à distribuer, pas chères. Donc ça, c'est aussi une spécificité de l'anarchisme. Et puis, beaucoup d'éditions. Alors, aujourd'hui, on trouve, on voit ici, beaucoup d'éditeurs qui publient des œuvres anarchistes. Ça peut être des éditeurs militants, ça peut être des éditeurs commerciaux. Quand le Syrah s'est créé en 1957 à peu près, je crois qu'on trouvait dans les librairies, on ne trouvait rien sur l'anarchisme. Dans les bibliothèques, pas grand chose. Et il a fallu attendre 1968 pour que tout à coup les éditeurs commerciaux s'intéressent à ce nouveau produit, publient des choses intéressantes ou non, et que les anarchistes eux-mêmes aussi publient de plus en plus de choses. Mais je pense qu'entre 1914 et 1968 à peu près, il y a eu très peu d'ouvrages anarchistes publiés par des maisons d'édition connues, donc qui étaient dans les librairies, et ça un peu dans le monde entier. On avait surtout l'auto-édition, donc des bouquins publiés par les anarchistes eux-mêmes, qui circulaient dans le milieu, mais qui n'atteignaient pas le grand public. Il n'y avait quasiment pas de travaux universitaires. En France, la thèse de Jean Maitron sur l'histoire du mouvement anarchiste qui date du début des années 50, c'était vraiment tout à fait inattendu et difficilement acceptable pour le monde universitaire. Et puis maintenant, dans toutes les universités, on peut faire des thèses sur l'anarchisme, n'importe quel aspect du mouvement anarchiste. Donc tout ça change beaucoup la disponibilité. En langue allemande, je me rappelle qu'après 68, nous avons eu aussi à la visite de compagnons allemands qui disaient qu'il n'y avait rien, il n'avait, depuis 1933 jusqu'en 69, rien n'était disponible en Allemagne. Les bibliothèques avaient été brûlées ou cachées ou parties à l'étranger. Et quelques copains avaient des fonds encore dans leur cave ou leur grenier, mais les compagnons allemands venaient au CIRA emprunter des bouquins pour faire des rééditions. Et c'était une des seules sources qu'ils avaient trouvées de disponibles. Donc, importance d'avoir des archives quand il y a des moments de creux, de disparition, des dictatures, hélas. Il y a eu beaucoup de choses, par exemple en espagnol ou en portugais, sont parues à l'étranger pendant les dictatures de Franco, Salazar, voire les dictatures en Amérique latine, où des choses clandestines paraissaient à tout petit tirage. Et il fallait, c'est toujours bien d'en garder une trace, de savoir qu'il y a eu un mouvement, il y a eu des gens qui se sont battus, qui ont gardé la tête hors de l'eau, qui ont gardé la flamme allumée, même sur la veilleuse. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est aussi une tradition dans beaucoup de pays du monde, que quand trois anarchistes se rencontrent, ils font non seulement un journal, mais ils font aussi une bibliothèque. Et que dans les locaux, il y a des bibliothèques. Alors il y a des gammes de bibliothèques très différentes. J'ai raconté dans l'article qui est paru dans la Blatt qu'en Amérique latine, en Argentine notamment, il y a une tradition de bibliothèques populaires. Bibliothèques de quartier qui sont ouvertes aux gens du quartier, qui sont ouvertes aux enfants pour venir faire leurs devoirs, pour trouver des encyclopédies, des livres de sciences, une culture populaire. Et puis, il y a des rayons anarchistes. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un s'intéresse. Donc c'est à la fois une ouverture vers le quartier, la ville, les gens normaux, et ça peut être aussi une protection. Parce que c'est pas seulement une bibliothèque militante, mais c'est une bibliothèque qui a des bouquins de base, donc qui a toute une partie ouverte et innocente, si l'on veut. Même chose en Espagne, même chose en Italie, donc c'est ce genre de bibliothèques qui peuvent être là où il y a peu d'accès aux livres, peu de ressources financières, et où on a envie de s'implanter un peu dans une ville, dans un village, dans un quartier. La bibliothèque combinée, bibliothèque d'éducation générale et bibliothèque militante, peut être une manière de faire la propagande dont nous sommes finalement les spécialistes. Maintenant, autre chose est d'archiver dans le sens vraiment des archives qu'on conserve, qu'on préserve du vieillissement. Le papier journal ou le papier pour la polycopie, c'est du papier de mauvaise qualité. Après quelques années, ça devient difficile à lire. Chaque fois qu'on l'ouvre, il se tombe en morceaux. Donc il y a des questions aussi, si on veut, plus professionnelles, qui seraient souhaitables d'obtenir. On a souvent des locaux dans une cave, dans un grenier, ils sont trop secs, trop humides, trop chauds, trop froids. Et malheureusement, le papier n'aime pas les changements de température, les changements d'humidité, tout ça. Donc, En même temps, les archives officielles, sans doute les archives de police ou les archives du ministère public fédéral en Suisse, ont des ressources extrêmement intéressantes pour l'histoire de l'anarchisme, mais c'est pas accessible n'importe comment, c'est pas toujours complet, c'est pas toujours... c'est une autre catégorie, vraiment, même si ils conservent des journaux saisis, des publications. C'est quand même surtout des rapports de police auxquels on peut faire confiance ou non. Et il y a le risque que, justement, que les archives de notre mouvement, si elles sont déposées dans un lieu public, risquent aussi la censure, la destruction, l'éparpillement. Donc c'est un peu dans cette idée là un peu mégalomane que le CIRA s'est constitué, tout en restant une organisation modeste, sans argent. Les gens qui travaillent sont pas payés ou à peine. On n'achète rien. Donc toute la bibliothèque a été constituée par des dons, des cadeaux du mouvement, des militants, des amis, de quelques voleurs. Et donc tout ça c'est vraiment précieux parce que pour nous c'est important que ça reste les archives du mouvement, donc ça appartient en quelque sorte à l'ensemble du mouvement anarchiste, qu'on n'exerce pas de censure. Quelquefois ça nous ennuie beaucoup de devoir cataloguer des très mauvais livres, mais voilà. On ne va pas encourager les lecteurs et les lectrices à les emprunter, mais on les garde quand même parce que c'est un témoignage de ce qui a été fait dans le mouvement. On ne veut pas tout avoir, parce que ce n'est pas possible de gérer, ça serait beaucoup, on a aussi des forces et des locaux limités. Mais on a développé depuis pas mal d'années un réseau avec d'autres archives et d'autres bibliothèques anarchistes et libertaires dans le monde entier, pour savoir ce qu'il y a dans tel endroit, pour faire des échanges éventuellement de photocopies, voire de versions numériques digitalisées de plus en plus, pour se soutenir aussi les uns les autres, parce qu'il y a des bibliothèques qui sont tenues par une ou deux personnes. Quand ces personnes ne sont plus là, quand on n'a plus de local, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui peut reprendre ou mettre dans une cave en attendant que des temps meilleurs arrivent? Et donc je pense que tout cet éventail de bibliothèques qui ont des statuts très différents, certaines ont des statuts un peu plus reconnus, d'autres sont vraiment encore au début, d'autres ont plus d'activités culturelles, moins d'activités archivistiques, mais tout ça, je pense, peut se développer sans censure, sans critères. Ça peut être une petite bibliothèque locale dans un village, ça peut être un infoshop, puis ça peut être des grandes archives subventionnés ou reconnus par une université, peu importe en fait. L'important c'est de savoir vraiment où on trouve, que les collections de journaux sont jamais complètes. Alors l'autre problème, un des grands problèmes qu'on a eu ces derniers temps, nous avons une collection d'environ 3500 affiches qui viennent de partout dans le monde. Les plus anciennes date de la fin du 19e siècle, les plus récentes de demain. Et comme c'est fragile, difficile à conserver, on les a photographiées pour garder des versions numériques de bonne qualité. Après, il faut faire un catalogue. Et comment on fait un catalogue quand une affiche dit « Manif vendredi à la gare » Alors quelquefois c'est mis « vendredi 12 ». Ou même vendredi 12 mars. Bon, vendredi 12 mars, on regarde en calendrier, technique d'impression, telle année. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites des tracts ou des affiches, vous mettez 12 mars 2003 à Bienne. C'est quand même beaucoup plus... Ça restera mieux dans les mémoires. Il y aura moins d'erreurs, donc moins de confusion. Bien sûr, il y a toujours. Il y a toujours des pseudonymes, il y a toujours des choses un peu clandestines. Ce que nous essayons, nous, c'est quand nous recevons, par exemple, des documents, nous écrivons au crayon « reçu en mars 2003 ». Ça ne veut pas dire que la fiche peut dater d'avant, parce que c'est quelqu'un qui l'a gardée dans un coin et qui a envie de la mettre à disposition. Mais c'est quelquefois désolant. Et ça, c'est dans tous les pays. Meeting per il primero de mayo, Plaza de España. Alors, quelle ville en Espagne ont des Plaza de España? Oh là 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 là. Quelquefois, il y a l'arrêt de métro, alors on peut trouver avec Google Maps, on arrive à trouver où c'est. Mais quelquefois, ça prend une heure. Donc, voilà, une supplication que je fais à tout le monde. Vous écrivez, aussi dans les livres et les publications, vous écrivez le lieu et la date. Pour que ça reste dans l'histoire, les mémoires, et qu'on puisse avoir... Je crois que on peut dire, ah, l'histoire, c'est une science universitaire, ça ne nous intéresse pas. Mais si, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on n'est pas apparu comme ça par génération spontanée. Il y a tout... un siècle de militants avant nous qui ont lutté, qui ont développé les idées, qui se sont battus, qui ont réalisé des choses. Et c'est grâce à ça que nous sommes là, c'est grâce à ça que nous pouvons faire une foire du livre ou d'autres activités et occuper des maisons et développer nos idées. C'est parce qu'il y a un mouvement qui a porté ça jusqu'aux plus jeunes générations d'aujourd'hui. Et bien sûr, les vieux anarchistes, ils ont dit pas mal de bêtises, mais je pense que dans 20 ou 25 ans, les anarchistes trouveront que nous, on a aussi dit pas mal de bêtises ou fait des choses erronées. Il ne s'agit pas non plus de dire « Ah, Durruti, ah, Macno, ah, nos ancêtres ». Il n'y a pas qu'eux. Il y a eux, bien sûr, mais il y a un mouvement qui continue malgré les dictatures, malgré la répression, une transmission qui s'est faite dans des endroits, dans des familles, parmi des gens, malgré les exils, malgré tout ça. Et je crois que, bon, il faut rendre hommage à nos prédécesseurs et aussi nous inspirer un peu de choses qui ont été faites pour discuter, débattre, aussi débattre avec les ancêtres de ce qu'ils ont fait de juste, ce qu'ils ont fait de faux, ce qu'ils ont fait d'intéressant, ce qu'ils ont fait d'idiot. Et avec ça, je pense que voilà, avoir un peu de lecture, c'est toujours très utile. En Suisse, l'histoire du mouvement anarchiste en Suisse, elle est un peu particulière, mais comme l'histoire de beaucoup d'autres mouvements, parce que en Suisse romande, les anarchistes se sont toujours plus intéressés à ce qui se passait en France, au Tessin plus à ce qui se passait en Italie, à Zurich plus à ce qui se passait en Allemagne et en Autriche. Donc il y a des chronologies un peu différentes, des présences à des moments, un peu des choix un peu différents. Il ne faut pas oublier aussi que la Suisse a été, et ça je pense que l'histoire pour ça c'est intéressant, a été pendant toute une période un pays d'asile et de refuge généreux, avant de changer complètement de position. Donc c'est un pays bien sûr où il y a eu énormément d'anarchistes étrangers qui sont passés. Et pour essayer de retrouver des morceaux de cette histoire qui n'a pas été écrite de manière cohérente, il y a un projet qu'a lancé Gian Piero, qui est là dans la salle, qui est un dictionnaire biographique en ligne. Alors c'est pas un dictionnaire, c'est un chantier. C'est un chantier où il a mis, qu'est-ce qu'il y a, plus de 2000 noms, 1700 noms d'anarchistes plus ou moins connus. Il y en a qui sont connus comme Bertoni, comme Bakounine, comme quelques autres. Et puis il y en a dont on sait juste, par exemple, qu'il a été expulsé de Suisse en 1894. ça c'est la spécialité d'Adriane, les expulsés. D'autres, on sait juste qu'il a été syndiqué, arrêté pendant une grève en 1907. Une dame, elle était juste la compagne de quelqu'un. On sait vaguement son nom, mais c'est tout ce qu'on sait d'elle. Et donc il y a des papiers qui parlent de ce chantier qui est accessible, on peut lire tout ce qu'on veut dessus, et on peut ajouter, compléter des notices, proposer des nouveaux noms, envoyer des informations au grand patron qui est là-bas. L'ambition, c'est de faire un dictionnaire dans trois langues. Pour le moment, il est surtout en italien, en partie en français, un petit peu en allemand, mais peu à peu, donc, les traducteurs et traductrices sont aussi bienvenus. Et quelquefois, les textes sont un peu différents. Par exemple, un personnage, comme Bertoni, l'article que Giampiero a écrit développe beaucoup les contacts avec l'Italie. Et moi, quand j'ai fait la version française, que je suis encore en train de mettre au point, je vais développer un peu ces contacts avec le monde francophone et moins parler des contacts avec l'Italie, en me disant que les gens qui s'intéressent à l'Italie peuvent aussi lire la version italienne. C'est un travail interminable qui sera jamais fini, mais c'est amusant à faire. Regardez-le, collaborez, si vous avez des idées, si vous avez des pistes, si vous avez un grand-père qui a publié une brochure un jour ou l'autre, ou un document, on peut vraiment enrichir tout ça, et peu à peu se diriger vers une histoire de l'anarchisme en Suisse, qui sera évidemment pas l'anarchisme suisse, parce que ça n'existe pas vraiment. Bon, j'ai parlé plus longtemps que j'aurais voulu. Si vous voulez, vous avez des questions, vous voulez discuter, on peut encore rester ici un moment, puis ensuite discuter au bar ou dehors ou ailleurs. Le CIRA a une table là-bas avec la documentation. Le Circolo Carlo Vanza est aussi représenté, donc la bibliothèque de Locarno. Et donc vous trouvez aussi des pistes où il y a des archives plus ou moins importantes déjà actuellement. Alors nous avons de plus en plus de documents électroniques. Quelques-uns sont introduits dans le catalogue normal, avec juste un logo un peu différent pour montrer que c'est un document électronique que nous avons chez nous, mais c'est pas sur Internet pour des raisons de coût. Donc on peut obtenir chez nous certaines versions numérisées de journaux ou de livres ou de documents, mais c'est pas accessible en ligne. Un autre projet que nous avons, peut-être un peu prématuré d'en parler, mais quand même, il y a eu un journal anarchiste en Suisse vraiment important, un double journal, Le Réveil Idriss Velio, qui est paru de 1900 à 1947, et puis après de temps en temps. Et il y a en bibliothèque en Suisse, accessible, il y a à peu près 3 collections. Donc c'est vraiment pas grand chose, et nous avons l'intention de le mettre en ligne, celui-là, vraiment accessible en plein texte. Mais bon, ça va coûter beaucoup d'argent, donc il faut qu'on trouve de l'argent d'autres bibliothèques et d'autres fonds qui subventionne l'aventure. Donc ça sera fait, j'espère, l'année prochaine.